Vous hésitez à faire une thèse scientifique et vous ne trouvez pas de réponse à vos questions? Ne vous en faites pas, vous n'êtes pas seul.
Je suis Rony Abessidan, doctorant en IA et cybersécurité à Lille, et je vous propose de vous aider dans votre recherche. Avec thèse, antithèse, synthèse, la thèse scientifique n'aura plus de secret pour vous.
Allez, c'est parti. Donc, bienvenue dans ce deuxième épisode de thèse, antithèse, synthèse. Donc, aujourd'hui, l'épisode va être consacré à la question des carrières professionnelles que l'on peut envisager après avoir fait un doctorat scientifique. Pourquoi aborder cette question? Parce que simplement, je vous rappelle que ce podcast, il est dédié aux personnes qui hésitent à poursuivre une thèse scientifique. Et évidemment, pour aider à trancher sur cette question, il faut être au courant des métiers qui sont possibles, qui sont accessibles une fois qu'on a fait un doctorat scientifique. Et donc, sans plus attendre, je vous propose dès maintenant de commencer en laissant les invités se présenter.
Je vais me présenter brièvement. Donc, je suis Pierre-Antoine Touvenin, donc je suis maître de conférence à l'École centrale de Lille. Et donc, j'effectue ma recherche donc, au laboratoire Cristal, au centre de recherche en informatique à traitement du signal et automatique de Lille. Et donc j'effectue ma recherche dans le cadre d'une équipe qui s'appelle Sigma pour signaux et modèles, et je m'intéresse à la résolution de problèmes inverses en traitement du signal au sens large avec des applications en astronomie et en télédétection. Voilà.
Merci Pierre-Antoine pour cette présentation. Maintenant, écoutez, je vous propose d'enchaîner avec la présentation de Morgane.
Donc je m'appelle Morgane Lebosc, je suis docteur en biologie et biochimie avec une double compétence en communication et marketing. Et aujourd'hui, je suis responsable communication et marketing et formatrice chez Adoc Talent Management, qui est un cabinet de conseil en recrutement spécialisé dans les profils PhD, donc dans les profils de docteur. Et je vais laisser Emeline continuer.
Emeline Hachi, je travaille également chez Adoc Talent Management avec Morgane. Donc, nous avons effectivement cette activité de recrutement spécialisé pour les profils scientifiques, notamment les PhD. Et nous avons aussi une activité de formation pour les docteurs, les doctorants et les chercheurs dans les EPST ou dans les EPIC, etc. Et donc, moi, je suis responsable du pôle formation. Et nous avons un troisième pôle qui est un pôle R&D avec notamment le laboratoire interdisciplinaire qui en fait travaille sur la thématique du doctorat, surtout des problématiques liées au doctorat. Initialement, j'ai un doctorat en œnologie et je suis aussi ingénieur pédagogique.
Bien écoutez, merci pour vos présentations respectives. Je vous propose maintenant de démarrer l'épisode en abordant les carrières académiques que l'on peut viser après un doctorat. Alors pourquoi je commence par les carrières académiques? Simplement parce que classiquement, quand on dit au commun des mortels qu'on va faire un doctorat, tout de suite on nous met immédiatement dans une case qui n'est autre en fait que la case de professeur. Car c'est le métier académique de référence que tout le monde connaît. Sauf que en réalité, derrière ce terme de professeur, il y a plein de possibilités. Et donc je me parlais de me tourner vers toi Pierre-Antoine, car tu es enseignant-chercheur justement, et généralement quand les gens pensent que l'on va faire professeur après un doctorat, c'est justement qu'ils pointent ce métier dans ses chercheurs, mais ils ne savent pas vraiment ce que c'est que ce métier. Est-ce que tu pourrais donner des détails à ce propos?
Alors en quelques mots, donc en fait en tant qu'enseignant-chercheur, donc on a deux casquettes si on veut, il y a deux versions dans notre métier, donc à la fois la tâche de recherche mais aussi d'enseignement. Donc on a une charge d'enseignement en fait fixe, un volume horaire fixé, donc qui est général par statut de 192 heures au minimum. Donc on effectue alors généralement dans un établissement d'enseignement supérieur, donc que ce soit une école d'ingénieur, l'université ou un IUT par exemple. Donc ça c'est pour le volet enseignement. Et pour le tout le reste du temps en fait c'est le volet recherche. Donc, là on va effectuer donc nos activités de recherche dans le cadre d'un laboratoire dans lequel on aura été nommé lors de la prise de poste. Et c'est justement, enfin ce qui est intéressant, c'est justement il y a un petit peu ces deux volets. À la fois l'activité de recherche qui généralement est ce qui motive le plus les jeunes candidats pour faire avancer, ben, créer de la connaissance, mais d'une certaine façon cette création de connaissances ne se fait pas de façon complètement déconnectée. Tout le volet de transmission en fait de connaissances auprès des jeunes générations et auprès des étudiants est de fait représente la moitié de mon travail par exemple.
Donc il y a en fait un mix entre la création de connaissances et la diffusion de connaissances.
Exactement, souvent l'un nourrit l'autre. En tout cas, le fait d'avoir Un travail qui est basé sur une activité de recherche permet de se poser aussi les bonnes questions en termes de quelles sont les compétences à transmettre aux étudiants en vue de former de futurs collaborateurs ou de créer de nouvelles connaissances. Et ça, pour le coup, souvent il est difficile en fait de voir de façon complètement disjointe uniquement l'activité de recherche ou uniquement l'activité d'enseignement. Les deux en fait se nourrissent de façon constante. Et c'est justement un des points qui est intéressant dans ce type de carrière académique.
Alors, il me semble que toi, tu es plus précisément maître de conférence. Est-ce qu'il y a une différence entre les termes maître de conférence et enseignant-chercheur?
Alors, je suis alors enseignant-chercheur et la notion de maître de conférence ne fait que représenter un grade. Après quelques années, en progressant dans la hiérarchie, on passe professeur des universités. Donc voilà, maître de conférence et professeur des universités sont juste des noms spécifiques du poste que l'on occupe. Et de façon standard, on occupe le poste dit d'enseignant-chercheur, si vous regarde notre catégorie socio-professionnelle. Moi, de mon côté, oui, je suis maître de conférence, donc de facto enseignant-chercheur.
Et est-ce que quand on veut dire chercheur, on est obligé de faire une part d'enseignement ou est-ce qu'on peut être que chercheur?
Bien entendu, voilà. Donc, si on passe sur d'autres types de postes, donc il y a les possibilités de travailler pour d'autres types d'établissements. Par exemple, ce qu'on appelle les EPIC, donc les établissements publics à caractère industriel et commercial. Donc là, pour donner des exemples d'instituts, on a par exemple l'ONERA, le CEA, donc le Centre d'énergie, alors enseignement atomique, mais énergie renouvelable maintenant, ou le CNES, donc le Centre national des études spatiales. Donc typiquement, ce sont des types de postes où on va pouvoir faire uniquement, alors ici, de la recherche avec une dimension appliquée, donc il y a une dimension industrielle. Et une autre possibilité, donc, c'est de travailler dans des établissements dits publics à caractère scientifique et technologique, donc ce qu'on appelle des EPST, avec comme exemple le CNRS, donc le Centre National de la Recherche Scientifique, l'INRIA, l'INSERM ou l'INRAE, où là on peut acquérir, disons, un statut purement de chercheur, où par statut on n'est pas forcé d'effectuer des missions d'enseignement, bien que très souvent donc les chercheurs qui travaillent dans ces instituts, donc les EPST, effectuent des missions d'enseignement de façon ponctuelle, en fonction des opportunités qui s'ouvrent ou de la possibilité aussi d'avoir un accès à des étudiants qui peuvent être intéressés par leur thématique de recherche. Par exemple, s'ils sont à la recherche de futurs étudiants ou de futurs stagiaires, c'est un très bon moyen en fait d'avoir accès tout de suite à une audience ou en tout cas à l'attention des étudiants qui pourraient être intéressés.
Donc dans un laboratoire, on a donc des chercheurs, des enseignants-chercheurs, on a aussi des ingénieurs, non?
Exactement. Dans un laboratoire, il n'y a pas uniquement des enseignants-chercheurs, il peut y avoir des unités qu'on dit mixtes, à la fois des chercheurs, par exemple du CNRS, des enseignants-chercheurs, des professeurs, des ingénieurs, donc qui viennent en soutien à la recherche. Et voilà, tout ce genre de profils qui travaillent à la même tâche.
Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ces informations. Maintenant, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi, pour l'instant, du coup, tu n'as pas décidé de poursuivre ta carrière après la thèse dans l'industrie? Pourquoi avoir choisi une carrière académique?
Alors, parce que pour l'instant, en fait, disons que les tâches que je suis amené à faire m'intéressent. C'est vrai que moi, ma motivation principale, c'était essentiellement de faire de la recherche. L'enseignement n'était pas forcément la composante qui me motivait le plus. Mais disons que pour l'instant, en tout cas, ce que j'aime beaucoup dans travail, c'est la liberté aussi de choisir sur quel projet je travaille, avec quelle personne, et de n'avoir absolument aucune contrainte de ce point de vue-là. Disons que tant que mon travail de recherche avance et que je peux développer mes activités de façon fructueuse, il n'y a absolument aucune limite au type de thématiques sur lesquelles je vais pouvoir travailler. Même en fonction des orientations ou des opportunités qui peuvent se présenter par la suite, je vais être capable soit de me réorienter vers une thématique de recherche particulière ou de continuer dans un champ bien précis des techniques qui m'intéressent au jour le jour.
Eh bien, écoute, merci pour cette réponse. C'est très intéressant comme point de vue. Donc, effectivement, on a une très grande liberté quand on travaille dans le monde académique qu'on n'a pas forcément dans l'industrie, puisque dans l'industrie, on doit souvent répondre aux exigences et aux besoins d'une entreprise. Je pense qu'on voit déjà maintenant un peu mieux ce qui se passe au niveau des carrières académiques quand on a fait un doctorat scientifique. On peut maintenant enchaîner avec les carrières de l'industrie qui, selon mon point de vue, je pense qu'elles sont quand même bien moins connues que les carrières académiques. Donc, pour aborder ce sujet, nous avons Morgane avec nous. Donc, Morgane, est-ce que tu pourrais détailler un peu ton parcours à nos auditeurs?
Alors, je vais légèrement, comment dire, j'ai un tout petit peu parlé d'avant la thèse, parce que C'est un tout, en fait, de ce qui s'est passé dans mon parcours qui est un peu atypique. En fait, j'ai commencé à toucher à tout ce qui relève de la communication et du marketing en 2015, donc en créant une chaîne YouTube. Donc à l'époque, c'était pas du tout, il n'y avait pas l'engouement des influenceurs, etc. C'était quelque chose de très, très sobre. Et c'est comme ça que je me suis vraiment formée avec des articles, des livres, des formations, sur tout ce qui me permettait de développer au maximum mon activité. Que ce soit dans la conception des vidéos, des supports, des infographies, de recherche de partenaires, de clients, etc. Et en parallèle de ça, je faisais mes études en tant que... j'étais étudiante en licence et master de biologie, biochimie et bioinformatique. Ensuite, en 2018, j'ai été recrutée en tant que chercheuse dans une start-up dans l'industrie pharmaceutique. Et ce contrat était un peu particulier vu que c'est un contrat en chiffres, c'est-à-dire qu'il permet à la fin des 3 ans du contrat d'obtenir un doctorat. Est-ce que tu veux que je rentre un petit peu plus dans les détails de chaque mission ?
Eh bien, écoute, oui, ce serait pas mal qu'on ait un peu de détails sur notamment les postes que tu as occupés après ta thèse.
Donc pendant la thèse, j'étais chercheuse dans l'industrie pharmaceutique. Donc vraiment, je considère vraiment cette expérience de doctorante comme un CDD à part entière qui m'a permis d'être pluridisciplinaire à la fois sur une expertise scientifique via ma thématique de recherche. Je réalisais des preuves de concept par rapport aux produits de vente de l'entreprise, c'est-à-dire pour ceux qui s'intéressent un peu à la biologie, c'était l'impact d'une certaine catégorie d'ondes électromagnétiques dans la réponse analgésique. Et en plus de ça, vu qu'on était une petite structure, j'étais en charge de tout ce qui était management des équipes techniques, des missions d'enseignement, de vulgarisation et de communication scientifique autour du produit de vente. Après ça, en 2021, j'ai été recrutée en tant que directrice d'études précliniques dans une CRO, c'est-à-dire un institut de recherche sous contrat, toujours dans l'industrie pharmaceutique, cosmétique et agroalimentaire. Et donc, une mission était de gérer de A à Z toutes les études qui me sont confiées. Pour vous donner un peu une idée, j'avais une vingtaine d'études en parallèle et ça allait de l'écriture de l'étude en relation avec le client, au management des équipes techniques, ensuite l'interprétation des résultats, l'écriture du rapport final et le rendu au client. Et enfin, en 2021, j'ai été recrutée par Aldoc Talent Management en tant que responsable communication et marketing qui me permettent de mettre à profit à la fois mon doctorat avec des missions de formatrice pour aider donc les docteurs, les doctorants ou des personnes de recherche à déterminer les différentes compétences qu'ils ont acquises, la mise en valeur de leur expertise, leur poursuite de carrière, mais aussi les compétences que j'ai développées en tant que communicatrice, communication et marketing. Et voilà où j'en suis aujourd'hui.
Eh bien, écoute, merci pour tous ces détails. En tout cas, on voit que tu as pu faire des tâches très variées. Et je voulais te poser une autre question. Est-ce que les compétences que tu as acquises pendant ton doctorat t'ont servi ensuite pour les postes que tu as poursuivis juste après ta thèse ?
Bah déjà, ça m'a énormément formée côté scientifique pur et dur, donc dans le domaine de la biologie, de la biochimie. En plus de ça, toutes les missions à côté que j'avais d'enseignement, de vulgarisation de mes recherches, je l'ai présenté dans des congrès, dans des séminaires. Tout ça m'a permis ensuite de me construire petit à petit et notamment de savoir ce que je veux et de ce que je ne veux pas.
Très bien. Et en fait, du coup, pourquoi toi, tu n'as pas décidé de poursuivre une carrière dans l'académie plutôt que dans l'industrie ?
Du coup, pendant mon expérience de contrat en chiffres, j'étais à la fois en entreprise et en laboratoire académique, ce qui m'a permis pendant 3 ans d'évoluer dans ces deux univers. Et j'ai décidé de poursuivre dans le privé parce que, en tout cas dans la biologie, les laboratoires de recherche académique sont plus dans le fondamental et j'avais besoin d'avoir un produit concret à la fin, de pouvoir valoriser un produit. C'est pour ça que je suis partie vraiment dans l'industrie, on va dire. En plus de ça... j'ai une vie personnelle, un mari depuis 10 ans, donc je voulais avoir une situation stable. Donc plutôt trouver un CDI, ne pas enchaîner des post-doctorats sans savoir vraiment où j'allais atterrir et où j'allais emmener avec moi toute ma famille. Donc pour moi, c'était important que je m'épanouisse à la fois professionnellement, mais aussi personnellement. C'est pour ça que j'ai préféré poursuivre ma carrière dans le domaine privé.
Ok, donc en fait, on voit que toi, ce qui t'a motivé, c'était... de pouvoir avoir une situation stable. Alors c'est vrai que quand on est dans l'académie, certes, on est libre de travailler dans ce qu'on veut, mais parfois, on ne choisit pas forcément où on va faire nos recherches quand on fait un post-doctorat, où on va faire nos recherches quand on est chercheur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont un peu plus incertaines. Et donc effectivement, ce métier, travailler dans l'industrie, ça permet d'être un peu plus stable et aussi de travailler dans du concret. Quelque chose peut-être de plus concret.
C'est ça.
Ok. Donc concrètement, il existe encore plus de métiers accessibles pour les doctorants. Et apparemment, Emeline, toi, tu en connais un sujet à ce rayon, donc j'aimerais que tu nous en parles un peu plus.
À l'image de ce qu'on a pu voir avec Morgane, le parcours d'un doctorant peut être multiple. On peut avoir plusieurs carrières quand on est docteur. Et ce qui a été montré par diverses études, notamment certaines menées par Adoc, c'est qu'on retrouve en fait les docteurs dans un peu tout le tissu économique et social. On a des docteurs qui vont occuper des postes dans des petites, des moyennes, des grandes entreprises, des groupes internationaux. Donc, on a vraiment une variété de types de structures où on va retrouver des docteurs. Mais on va aussi retrouver des docteurs dans des services, dans des départements très, très variés. Donc, on va avoir des docteurs qui vont se retrouver, par exemple, dans le conseil. On va avoir des docteurs dans les postes de management. On va aussi avoir des docteurs qu'on va retrouver en communication et en marketing, comme on peut voir avec Morgane. Et on a aussi notamment beaucoup observé des docteurs qui vont rentrer dans des structures dans le pôle R&D et qu'on va retrouver, qui vont finalement quitter la recherche et le développement pour se retrouver dans d'autres pôles, dans les entreprises. Donc ça, c'est clairement une illustration en fait de la variabilité des compétences et de l'étendue des compétences des docteurs. Et pour répondre vraiment plus précisément à ta question, ce qu'il faut surtout que les doctorants et les jeunes docteurs sur quoi il faut qu'ils se positionnent, c'est vraiment réfléchir à ce qui les motive, ce qui va vraiment correspondre à leurs valeurs et à leurs aspirations, comme l'a mentionné Morgane, parfois ça peut être un nombre de choix personnels, voir aussi leurs compétences, ils en ont énormément, qui sont très très parfois loin de leurs compétences, on va dire purement techniques, scientifiques, et il faut qu'ils apprennent finalement à pouvoir valoriser ces compétences et évidemment prendre en compte les attentes du marché. Et ce qu'on a observé depuis plusieurs années, c'est que le marché attend des docteurs. Et le marché est friand de docteurs et a envie de docteurs dans plein de disciplines, dans plein de niveaux différents.
Alors, c'est très intéressant ce que tu dis. On comprend très bien qu'en fait, les compétences des docteurs peuvent être tout à fait intéressantes pour les entreprises. Et non pas seulement que pour l'académie. Il me semble même carrément qu'il y a des docteurs qui lancent des boîtes.
Oui, on a énormément de docteurs qui deviennent des docteurs entrepreneurs. Qui vont monter des startups, qui vont aussi monter des cabinets de conseil. Typiquement, Adoc a été fondé par deux docteurs il y a environ 14 ans maintenant.
Ah oui, quand même, ça fait un petit bout de temps là.
Voilà, ça commence à remonter. Donc voilà, et il y a de plus en plus de concours de docteurs entrepreneurs, il y a de plus en plus de structures qui vont accompagner les docteurs dans l'entrepreneuriat. Et c'est vraiment quelque chose qu'on voit de plus en plus. Et il faut aussi que les docteurs se disent qu'ils peuvent être accompagnés, il ne faut pas que ça leur fasse peur et que s'ils ont cette envie de monter leur boîte, il faut y aller et s'entourer et se faire accompagner.
Ok, bah super, vous voyez qu'il y a des personnes qui pensent qu'après 3 ans de doctorat, c'est comme si on avait perdu 3 années d'expérience professionnelle. En fait, là, on se rend compte que non, pas du tout. Il y a même des personnes qui lancent leur boîte après leur doctorat. D'ailleurs, justement, au niveau de l'employabilité des doctorants scientifiques, est-ce que tu aurais des statistiques par rapport à ça?
Typiquement, si on prend la promotion 2016, il y a des études qui ont été menées et on a à un an 88% de taux d'emploi des docteurs et à 3 ans un taux de 93% en moyenne, toutes disciplines confondues.
Alors, juste excuse-moi de t'interrompre, est-ce que tu pourrais te donner la source de ces statistiques pour qu'on puisse revoir ces études?
Donc, ce sont des données qui sont issues de l'enquête IPDoc 2019.
Et est-ce que tu as d'autres statistiques intéressantes encore à nous partager?
Dans un premier temps, ce qu'on a observé, c'est que les doctorants qui ont un projet professionnel construit, entre guillemets, vont avoir un taux de satisfaction qui va être plus élevé, mais aussi un taux de poursuite de carrière aussi plus élevé. Donc, on va dire qu'on va être à 82% de satisfaction et de taux d'emploi, c'est le même nombre, pour des doctorants qui avaient un projet professionnel au moment de leur soutenance, versus 73% de satisfaction et 68% de taux d'emploi pour ceux qui n'avaient pas défini de projet professionnel. En termes de variabilité, en général, on a environ 65% des doctorants, si on prend les statistiques de la promotion 2016, qui voulaient en fait poursuivre leur académique. Et on regarde 3 ans après, il y en a 47% qui sont finalement dans l'académique. Donc on voit qu'on a une répartition qui n'est pas forcément l'image des intentions, en tout cas au moment de la seconde.
Oui, donc en effet, on se rend compte que la réalité est beaucoup moins tranchée. Les carrières académiques ne sont pas du tout prépondérantes par rapport aux carrières dans l'industrie.
Mais un autre chiffre qui va te surprendre, c'est que par exemple, à l'issue de la soutenance en 2016, il y en avait 3% qui voulaient continuer dans le privé, hors secteur recherche, hors académie complètement. Et finalement, il y en a 19 qu'on retrouve dans le privé, hors secteur. Donc, on a quand même un gros facteur de multiplication.
Ah oui, effectivement, donc un facteur de x6, comme c'est pas négligeable du tout. Donc on se rend bien compte quand même qu'il y a des personnes qui s'orientent vers, qui finissent par s'orienter vers l'industrie au bout d'un moment. Je pense qu'en fait, au cours du doctorat, on se rend compte peu à peu de ce qu'on a envie et on voit vers où on va converger. Donc maintenant, je pense qu'on a visité un beau panel de possibilités de carrière pour à la fois dans l'académique et dans l'industrie pour les doctorants scientifiques. Je voudrais juste avant de conclure vous poser une question. Est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui voudrait réagir à tout ce qui a été dit en disant par exemple quelque chose qui a oublié d'être mentionné?
Alors peut-être un petit point pour compléter ce qui a été dit précédemment. Donc sur les carrières académiques, donc il est vrai qu'il n'y a pas que des trajectoires linéaires. Donc c'est vrai que la plupart des personnes qui sont recrutées, que ce soit sur des postes de chercheurs ou d'enseignants-chercheurs, alors la majeure partie, c'est directement dans l'enchaînement naturel de la thèse et des postes dits de post-doc, donc de post-doctorat. Il y a des cas, un petit peu des trajectoires un peu moins linéaires, au sens où des personnes sont passées par la case du privé et se sont réinsérées par la suite dans un emploi dans le secteur académique. Donc je pense par exemple à des carrières à l'INRIA où il est parfois assez habituel de voir des personnes qui ont passé plusieurs années sur des postes d'ingénieur, typiquement en informatique, et qui par la suite, en fonction des compétences ou de la montée en compétences qui s'est faite tout au long de leur carrière, ont souhaité se réorienter plus sur des thématiques de recherche où il y a une appétence pour la recherche qui s'est développée au fur et à mesure. Et à contrario, justement, donc, sur des personnes qui sont dans le secteur académique, peuvent en cours de route donc, soit avoir envie de monter une start-up ou décider au bout de certaines années de faire le choix d'aller de s'orienter plus sur ou de repartir vers le secteur privé en fonction des opportunités qui s'ouvrent. Pour dire que même si on peut avoir l'impression que le secteur académique est un peu une boîte fermée où une fois qu'on y est entré, il est difficile d'en sortir, eh bien non, il y a des possibilités d'avoir des passerelles soit vers le privé quand on est dans le secteur académique, ou en étant dans le privé, essayer de repasser dans le secteur académique par la suite. Je ne dis pas que ces trajectoires sont faciles à obtenir, mais du moins, il y a des exemples se voient et ça existe. Voilà, juste pour compléter sur ce point-là.
Eh bien, écoute, merci Pierre-Antoine pour ce point très juste. Est-ce qu'il y a un invité qui voudrait aussi revenir sur ce qui a été dit ultérieurement? Apparemment non, donc je vous propose de conclure l'épisode là-dessus. Donc j'espère maintenant que l'idée du doctorant qui ne peut finir que professeur est complètement morte et enterrée dans votre tête. Voilà, et donc je vous conseille aussi d'écouter le prochain épisode qui parlera du quotidien des doctorants scientifiques. Donc merci encore à tous mes invités et on se dit à la prochaine.
Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode de Thèse Antithèse Synthèse. N'hésitez pas à liker l'épisode s'il vous a plu et à donner des commentaires constructifs pour vous en proposer encore mieux la prochaine fois.
Si vous connaissez d'autres personnes qui hésitent à faire une thèse scientifique, n'hésitez pas à leur partager ce podcast.